au réseau Cogeco. Vous écoutez les week-ends de Paul Oud, votre magazine de la fin de semaine.
Avec nous maintenant à 8h30, François Gagnon, bonjour, bon dimanche.
Bon dimanche, Paul.
T'as entendu, François, notre conversation avec Sylvain Charlebois?
Oui, tout à fait.
Bon,
tout à
alors
fait.
Là, écoute...
On peut en rajouter plus, même.
Bon, un souvenir, si... Ben, ça dépend de l'âge que vous avez, mais je me rappelle des années 80. Au début des années 80, j'avais acheté une maison, François, ma toute première. La maison comme telle... m'avait pas coûté cher. Ben, en fait, tout est proportionnel. Ça avait coûté cher, mais je veux dire, c'était raisonnable. Alors qu'aujourd'hui, en 2021, on fait de la surenchère pour l'achat des maisons. Mais savez-vous quel était le facteur déterminant quand vous deveniez propriétaire au début des années 80? C'était les taux hypothécaires. Les gens contractaient une hypothèque et renouvelaient souvent à 20, 21, 22 %. Vous vous rendez compte? On ne remboursait que de l'intérêt. On ne remboursait presque pas de capital. On ne faisait que rembourser parce que les taux d'intérêt étaient dans le plafond. Et le directeur de la Banque centrale, je me rappelle tout le temps de son nom, c'était John Crow.
Oh, yes.
Tu te rappelles de John Crow?
Oh, oui, oui, tout à fait.
Lui, son obsession, François, c'était de mater l'inflation. Aussitôt qu'il voyait une indication que le coût de la vie augmentait, que l'inflation partait, bang! Il montait le taux directeur.
Et c'est pour ça qu'à l'époque, Brian Mulroney et Ronald Reagan, rappelle-toi, avaient gelé les salaires, les prix. Là, ça n'avait plus de bon sens, là. Parce que l'inflation était tellement élevée. Et écoute, on avait de l'inflation autour de 18-19%. C'était insoutenable. Et on parle beaucoup d'aliments par les temps qui courent, là, dont plusieurs ont doublé. Je pense au prix du porc. Sur un an, là, ça coûte une fortune. Tantôt, M. Charlebois en a parlé. Mais à l'époque, c'était la même affaire, là. Tu sais, regarde, je te disais les maisons, là, mettons une maison qui coûtait 100 000 $ je viens de le calculer pendant que tu parlais, là, ça coûte aujourd'hui 327 000 $ écoute, là, ça n'a pas de bon sens. L'inflation a grimpé de 3 % en moyenne, là. Alors, c'est 41 ans, là, ça a été 139 % là, d'IPC. Là,
mais François,
c'est épouvantable.
Tu es d'accord avec une chose. Moi, comme je t'ai dit, cet article-là m'a ouvert les yeux cette semaine aux États-Unis. Ça va toujours mal dans l'économie, même quand on a des indicateurs qui sont... dans ce temps-là, on vivait avec un taux de chômage extrêmement élevé.
Oui.
Là, on est en pénurie de main-d'œuvre. Voyez-vous, ça devrait... être positif, dire « Hey, il y a de l'emploi pour tout le monde. » Pénurie de main-d'œuvre, plus une rareté des matières premières. Ben voilà que ça va nous replonger dans une reprise qui va être, disons, difficile.
Elle va être palpitante, en tout cas.
Palpitante.
Il y a deux raisons là-dedans. La première, là, les gens... tu sais, regarde, on a parlé beaucoup du port de Montréal cette semaine. Le premier porte-conteneur est arrivé tantôt, là. Les conteneurs coûtent une fortune. Écoute, ça coûtait, l'année passée, là, il y a un an, ça coûtait 950 $ pour un conteneur de 20 pieds, puis 1600 pour un 40 pieds. Aujourd'hui, là, ça coûte 4500 pour un petit, puis à peu près 10 000 pour un gros. Pourquoi? Il en manque des conteneurs. Et ça amène donc le fait que le transport coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que l'année passée. Ça amène donc une hausse des prix des matières premières, premièrement, et une hausse des prix des produits de consommation qui ont été fabriqués par ces, garde, les laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, etc., qui viennent de la Corée ou qui viennent de la Chine ou d'ailleurs, arrivent par porte-conteneur. Et là, ça crée une espèce de rareté parce que là, c'est toujours en retard. On a eu des bris de chaînes d'approvisionnement à cause du canal de Suez, entre autres, à cause de la grève ici à Montréal. C'est une semaine de grève, là, c'est un mois et demi de retard là, dans toute la chaîne d'approvisionnement. Alors, il va falloir s'attendre dans le gyps, dans plein de matières premières. Donc, quand tu crées une rareté artificiellement comme c'est là, ben, tu sais, si ta demande est extrêmement forte, ça va être au plus fort la poche.
Oui.
Ah, c'est toujours la même, ça marche.
Il y a un effet domino là-dedans. Aux États-Unis, sais-tu ce qu'on craint le plus durant l'été? Il va y avoir une pénurie d'essence. Les Américains dans leur tête, la pandémie est finie. Ce qui n'est pas vrai sur le terrain, mais dans la tête du citoyen américain, là, c'est fini. C'est... Déjà, on est en mode de reprise totale durant l'été. Alors, les Américains vont reprendre la route dans un débordement d'enthousiasme, comprends-tu? Et on prévoit déjà que les stocks d'essence, d'approvisionnement en essence, risquent d'être rupturés dès juillet.
Oui, et il faudra pas qu'il y ait une usine de transformation, qui explose ou qui arrive quoi que ce soit, là, un bris mécanique ou tout autre, là, parce que là, tu vas voir une flambée du prix de l'essence.
Oui, monsieur.
Et ça va nous atteindre nous aussi.
Parce que regarde, tu te rappelles au début de la pandémie, la chute des prix à la pompe, mais c'est parce que ça venait aussi du prix du baril de pétrole, le prix baril moyen.
Elle avait chuté quand même là, beaucoup. Là.
Est-ce que tu as jeté un coup d'œil sur les prix à la pompe dernièrement? Enfin, mettons hier. Là. Bon, je t'ai dit qu'on dépasse la 1,30 facile.
Ben oui, c'est 1,33 ici.
Ouais, ouais. Bon, mais par là...
On n'est pas sorti de l'auberge. Regardez, là, cet été, là, s'il fallait que les astres s'alignent pour qu'il manque d'essence au mois de juillet là, aux États-Unis, il ne faudrait pas, là. Mais si ça devait arriver, regarde, 1,5 piastres, là, ça va être beau, là. Ça sera pas cher.
Si, t'as raison, s'il y a rupture d'approvisionnement aux États-Unis, on va très certainement en subir les contre-coups. Parlons du salaire minimum au Québec, qui est passé à 13,50 $ l'heure hier.
Oui, et j'entendais des gens hier dire, bon, ben, faudrait que ça soit autour de 20 $, là, tu sais, faut quand même pas exagérer non plus, là. Et là, je ne veux pas dire, puis je vais répéter encore une fois, bien comme il faut, là, que 13,50 $, là, c'est le Klondike, là. C'est pas vrai. C'est pas le Klondike. Sauf que, on atteint un certain équilibre. Faut atteindre un certain équilibre pour pas perturber tout le système financier québécois non plus. Mais à 13,50 $, là, on est, malgré qu'on est loin du 15 $, comme c'est le cas en Colombie-Britannique, où on est à 15,20 $, ou encore dans les provinces des Prairies, où on est à 15 $, on est quand même troisième en termes absolus, là, en ce qui concerne le salaire minimum, là, quatrième, excuse-moi, sur 10, il y en a qui sont beaucoup plus bas que nous autres, là. Je pense Manitoba, 11,90 $, Nouveau-Brunswick, 11,75 $, Terre-Neuve-Labrador, 12,75 $. Ça, c'est les salaires minimums à la grandeur du pays. Mais il n'en demeure pas moins que quand on regarde les filets sociaux que le Québec paye, parce que nous, on a fait des choix qui n'existent pas ailleurs au pays. Par exemple, une personne seule là, réussit à vivre quand même, à vivre minimalement quand même, à 24,570 $ par année. Ça, c'est le salaire minimum à travail à temps plein. Et quand on regarde ses besoins de base, il est à 104%. Mais quand on regarde un couple avec deux enfants et un seul revenu, écoute, c'est toujours 24,570 $, mais son revenu disponible grâce aux filets sociaux que nous avons au Québec est quand même de 45,792 $. Il réussit, lui, et ce couple-là, avec un enfant, avec deux enfants, réussit à mieux vivre qu'une personne seule au salaire minimum. Pourquoi? Ben, des allocations familiales, l'aide aux familles, crédit TPS, crédit d'impôt de solidarité, etc. Alors donc, ça fait en sorte qu'ils ont de l'argent de disponible supplémentaire. Écoute, on parle de 20 000 $ supplémentaires, puis c'est pas imposable, là, ces argents-là. Alors c'est extrêmement important. Puis quand les deux personnes travaillent avec deux revenus, là on est tout près de 50 000 $ au salaire minimum, mais on a un 8 000 $ supplémentaire parce qu'on paye pas beaucoup d'impôts d'abord et avant tout. Ah, et deuxièmement, on a le filet social nous permet d'avoir un 8 000 $ supplémentaire. Et là, écoute, cette famille-là vit beaucoup mieux qu'une personne seule. Je t'ai dit tantôt 104%, on est rendu à 135%. Donc, on est capable de se loger, on est capable de s'habiller, de se nourrir, malgré le fait qu'il y a une inflation galopante dans le domaine immobilier, ça c'est clair. Ça va, au cours des prochains mois, si ça continue comme ça, c'est sûr que le 134 va s'amenuiser un petit peu.
Merci François, et bonne semaine.
Merci, toi aussi.